French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning, y'all.
Cet épisode de French Expat vous est présenté par PetitPoussinNY.com. Crèche et maternelle bilingue français-anglais, elles accueillent vos enfants de 0 à 5 ans, entre 8h et 18h, dans leurs établissements de West Harlem, Brooklyn et du Lower Upper East Side. Appelez dès aujourd'hui le 212-663-7777 et dites French Expat afin d'obtenir une réduction de $500, valable sur toute inscription de 6 mois ou plus, avant le 31 mai 2024. Une belle manière de commencer l'année. Merci à Petit Poussin pour son soutien. Maintenant, place à l'épisode.
Salut, salut, c'est Anne Fleur. Vous vous apprêtez à écouter un épisode enregistré en 2019, au tout début de French Expat, et je vous en remercie. Une fois que vous aurez découvert l'histoire d'Anthony, je voulais juste vous prévenir que nous avons enregistré un petit épisode de suite pour voir où il en est 3 ans après. Cet épisode, il est sorti en octobre 2022, et je vous mets le lien dans la description de cet épisode. Bonne écoute!
Bienvenue sur French Expat, le podcast. Le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout du monde.
Bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents au rendez-vous de ce nouvel épisode de French Expat, le podcast. French Expat, le podcast, c'est le podcast qui donne la parole aux expats français et francophones des quatre coins du monde. Notre but, c'est de raconter des histoires singulières d'aventuriers des temps modernes. On vous propose ainsi chaque semaine, tous les lundis, un nouvel épisode et on discute avec nos invités de l'expatriation qu'ils vivent ou qu'ils ont vécu. Moi, c'est Anne Fleur et je vous parle depuis Boston, aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est direction la côte ouest américaine que nous prenons pour retrouver, une fois n'est pas coutume, notre troisième invité homme du podcast. J'ai nommé Anthony. Alors non, nous ne sommes absolument pas contre l'idée de recevoir des hommes sur le podcast, bien entendu, mais vous êtes plus de 95% de femmes à nous écouter et donc à nous écrire. Bref, Anthony nous raconte sa vie en Californie, mais aussi et surtout son expatriation en Chine et son histoire d'amour qui débuta au coin d'un feu dans un camping du fin fond des États-Unis il y a presque 10 ans. Cette histoire d'amour lui fit parcourir des milliers de kilomètres sans jamais perdre de vue le fait que sa chérie Ellie, c'était peut-être pour la vie. L'arrivée d'Anthony aux États-Unis et son mariage, donc forcé, immigration oblige, à faire une petite pause professionnelle. Enfin, pause. Anthony est un hyperactif passionné d'aviation et entame alors une reconversion d'ingénieur dans le nucléaire à une carrière de pilote de ligne. Allez, je ne vous en dis pas plus et je suis très heureuse de vous présenter Anthony. Bonsoir Anthony et bienvenue sur le podcast.
Bonsoir, merci.
Alors, d'où est-ce que tu nous parles ce soir, puisqu'on est le soir ici?
Alors, d'ici, je suis en Californie et je suis à Stockton, donc c'est une ville qui se trouve entre Sacramento et San Francisco à peu près.
Bon, et alors, le concept du podcast, c'est de parler d'expats français. Donc, tu viens de France, d'où est-ce que tu viens en France?
Alors, moi, je viens d'un peu partout, on va dire. Je suis né à Metz, donc... En Moselle, après j'ai fait pas mal de mes études à Bourg-en-Bresse, donc dans l'Ain, et j'ai fini à Marseille où j'ai passé la fin de mes études et j'ai pas mal travaillé sur Marseille.
D'accord, donc un petit tour de France. Très bien.
Voilà, côté Est.
Oui, c'est ça. Alors du coup, on va y revenir, t'as fait pas mal de métiers déjà et j'ai hâte d'en savoir plus, à savoir comment t'es arrivé par là. Mais du coup, tu me parles de tes études, je suis obligée de te demander, du coup t'as fait quoi comme études pour faire ce que tu fais aujourd'hui? On y reviendra.
Alors pour faire ce que je fais aujourd'hui, j'ai fait toutes mes études, on va dire aux États-Unis, donc j'ai fait la partie de, là si on parle d'être pilote de ligne, donc là ce que j'ai fait en France c'était juste un brevet de pilote privé où je volais avec des amis. Et ensuite, quand je suis parti aux États-Unis, là, j'ai passé vraiment tout ce qui était nécessaire à être pilote de ligne, donc tous les diplômes qui vont bien. Quoi.
Très bien. Bon, alors, comment, avant de partir aux États-Unis, c'était pas en fait ta première expatriation?
Voilà.
Est-ce que tu peux nous dire d'ailleurs, c'était quand ta première expatriation et c'était où?
Alors, ma première expatriation, c'était en 2015 et c'était en Chine, à Taishan.
Alors, c'est où en Chine, Taishan? C'est dans quel coin?
C'est, on va dire, dans le coin de Macao, Zhuhai, Hong Kong.
Donc c'est, excuse mon ignorance géographique, ouais. Mais c'est quoi, c'est sud-est?
Ouais, ça doit être ça, ouais. Non, c'est ça, c'est sud-est et c'est De canton, voilà, c'est le plus proche qu'on puisse trouver, on va dire canton.
D'accord, ok. Alors, à quoi ressemblait ta vie avant de partir en Chine et dans quel cadre, du coup, est-ce que tu t'es retrouvé à partir là-bas?
Alors, avant de partir en Chine, alors moi, j'étais ingénieur. Donc, tu m'as demandé ce que je faisais avant aussi dans mes études. Donc, j'ai fait mes études d'ingénieur à Marseille et j'ai trouvé un bon travail d'ingénierie à Marseille. On était spécialisé dans le génie civil nucléaire. Mon entreprise, un jour, m'a proposé de partir en Chine. Je pensais pas que ça allait m'intéresser parce que personne n'était intéressé, j'ai l'impression. Et puis, moi, ils m'ont proposé. Puis, j'ai dit, bah ouais, carrément, je vais essayer. Je connais pas du tout la Chine, je connais pas du tout l'expatriation. C'était vraiment une occasion en or. Donc, j'étais dans un bureau d'études à Marseille et peut-être 2 semaines après, je me suis retrouvé en Chine. Ça s'est passé
à
très
deux
vite.
Semaines après. Ah ouais, d'accord.
Ouais,
on rigole pas.
Rapide. Ouais, ouais.
Et tu savais que tu partais pour une durée limitée ou enfin on t'envoyait pour une mission spécifique? Comment ça se passait?
Alors ça a été compliqué pendant toute la mission. Moi, je suis parti un an et demi, presque 2 ans là-bas, mais c'était reconduit de mois en mois en fait. Donc la première fois que je suis parti là-bas, c'était juste pour un mois. Je suis rentré en France et puis ils m'ont rappelé et là je suis resté un an et demi de plus. Mais à chaque fois, c'était une reconduction de contrat mois par mois. Donc je savais pas du tout.
Ah ouais. Donc du coup, t'as dû rentrer tous les mois?
Non. C'était juste le premier mois. Le premier mois, je suis rentré,
d'accord.
C'est une question de visa et puis aussi de contrat entre le client chinois et le client français. Mais après ça, j'ai eu de la chance et ils me reconduisaient quelques jours avant que je doive reprendre l'avion.
Ça doit être stressant quand même de vivre au jour le jour en étant loin, enfin à l'autre bout du monde, quoi.
C'était une aventure. Bon, à l'époque, je devais avoir 25-26 ans, donc j'avais pas d'enfant, pas de femme encore, enfin j'étais expat célibataire comme il disait, donc c'est une aventure.
Vivre comme l'air, c'était facile.
Ouais, c'est ça. Je ne le ferai plus trop maintenant.
Et alors, l'expatriation avant de partir, si on retourne un tout petit peu en arrière, c'était un truc qui t'intéressait ou c'est juste que ça s'est présenté à toi et tu t'es dit, bon, pourquoi pas?
C'est quelque chose qui s'est présenté à moi. Alors après, je me suis toujours dit, ouais, ça pourrait être cool de partir à l'étranger, mais je n'avais jamais vraiment cherché un job d'expat. Et c'est vraiment, j'ai eu l'opportunité, j'ai eu la chance de l'avoir.
Alors, tu arrives en Chine, donc du coup, tu ne sais pas pour combien de temps quand tu arrives là-bas. Comment ça se passe ton arrivée? T'as la barrière de langue, la barrière culturelle, comment ça se passe, le boulot et tout?
Ouais, donc en fait, même avant d'arriver au travail, rien que le fait d'arriver à l'aéroport, d'essayer de trouver son taxi qui a été missionné par ta boîte, mais qui finalement ça n'a pas fonctionné, il n'était pas au bon aéroport. Enfin, rien que déjà ça, c'était compliqué.
Parce que la plupart dès la sortie de l'avion, c'était pas évident.
Dès la sortie de l'avion, en fait, c'est là que je me suis dit, ah ouais. Parce que j'étais parti un peu à l'étranger, en Europe, et puis aux États-Unis. Il y a une petite barrière culturelle, mais bon, rien de spécial. Mais là-bas, c'est vraiment, je m'attendais pas autant de complications, mais bon, après arrivé au travail, les gens étaient très sympas. Il y a une grosse communauté, en tout cas, il y avait une grosse communauté de Français et d'Allemands sur place, donc ça rendait les choses assez pratiques quand même. Gros choc culturel en arrivant dans le pays.
D'accord. Donc quand tu dis il y a une grosse communauté, donc eux en fait la communauté locale d'expatriés, du coup, t'accueillent et t'aident un peu à prendre tes marques, ça que tu veux dire?
Ouais, tout à fait. Donc comme je travaillais sur un projet international, il y avait déjà des Français à la fois de mon entreprise, à la fois d'Areva, enfin d'une autre entreprise, à la fois des Allemands, et on travaille tous sur le même projet. Et donc il y a une solidarité que j'avais jamais vue auparavant, quoi. Hein. C'est dingue d'être accueilli, tout le monde t'aide. C'est vraiment impressionnant, quoi.
Excellent, le bon côté de l'expatriation, quoi.
Ah ouais, clairement, ouais. Ouais. Moins de problèmes, on envoie un texto, tout le monde répond, quel bus prendre. Il y en a même qui écrivent en chinois pour qu'on puisse montrer dans le taxi où aller.
C'est génial.
Franchement, c'était cool.
Et alors, ta vie personnelle, du coup, comment ça se passe là-bas? Enfin, du coup, en fait, ma question, j'allais te demander à quoi est-ce que tu t'attendais avant d'arriver là-bas, mais en même temps, est-ce que tu as vraiment eu le temps de t'imaginer à quoi allait ressembler ta vie en Chine, si tout s'est fait en 15 jours? Et juste pour avoir une idée un petit peu, je sais pas, du choc culturel éventuel que tu as vécu, et puis voilà, qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce qui t'a surpris, qu'est-ce qui t'a vachement plu?
Ouais, alors en fait, déjà le fait de partir là-bas en pensant y rester qu'un mois, moi, ça a facilité les choses parce que je me suis pas dit, tiens, bon, je vais arrêter de voir ma famille pendant un an, je vais pas voir mes amis pendant un an. Donc je voyais vraiment ça comme presque, je vais pas dire des vacances parce que c'était pas des vacances, mais un peu une expérience temporaire et qui allait me permettre de voilà de travailler et de voir du un pays nouveau quoi. Mais sinon ouais, bah, ce qui m'a étonné, bon déjà le fait que moi il faut situer la chose que Taishan c'est un petit village, enfin c'est un village peut-être d'un demi-million d'habitants, mais c'est un village où personne ne parle anglais. Ils prennent pas la carte bleue Visa ou Mastercard. Et un chauffeur de taxi, tu peux lui montrer un plan de la ville et lui montrer où tu veux aller, il va pas comprendre. Il faut
Ah
lui
bon?
donner le nom de la rue pour qu'il puisse t'emmener. Donc ça, c'est plein de petites choses comme ça. Mais l'avantage d'être dans cette petite ville, parce que j'ai pas fait, bon, j'ai fait Pékin, Shanghai, Canton, toutes ces grandes villes, j'y ai pas vécu. Et finalement, j'ai quand même bien aimé le fait d'être dans le côté rural où les gens étaient très très sympas et j'ai jamais été arnaqué dans mon petit village de Chine. Alors qu'à Pékin, j'ai déjà eu pas mal de... pas d'arnaques, mais on voit que les touristes, on fait attention à eux, quoi. Alors que là où j'étais, c'était plutôt tranquille et il y avait vraiment une bonne ambiance, quoi.
Et alors, est-ce que, du coup, dans ton travail de tous les jours, tu travaillais aussi avec des locaux, parce que tu parlais de la communauté internationale avec qui tu collaborais. Ça m'intéresse, du coup, de voir un petit peu comment ça se passe, les collaborations avec les locaux. Est-ce que on t'a accueilli, outre la communauté internationale, du coup, au travail, et puis comment vous avez collaboré un peu ensemble?
Ouais, tout à fait. Bon, alors, il faut savoir que le projet était, c'est un projet international assez complexe, donc je pense que il est assez atypique. Alors l'expliquer, ça prendrait des heures.
Par contre, tu veux dire dans quel domaine c'était peut-être?
Oui, non, ben alors moi, du coup, comme je travaillais dans le génie civil nucléaire, en fait, on construisait une centrale nucléaire en Chine. Donc, t'as peut-être entendu parler de l'EPR de Flamanville, c'est la bête noire d'EDF et d'Areva en France. Ben, en fait,
Tout à fait.
Areva et EDF a réussi à vendre un EPR en Chine et du coup on travaillait sur ce projet-là. Les Français et les Allemands s'occupaient de tout ce qui était design, donc la conception de la centrale, et moi je faisais partie du génie civil, donc je faisais la structure, hein, moi je faisais des murs en béton et des structures métalliques, mais après je travaillais avec des Français et des Allemands sur le partie un peu plus compliquée, l'électronique, l'électricité, le piping, etc. Et ensuite, quand ça partait plutôt côté construction, là, on travaillait avec les locaux. C'est-à-dire, ben, là, on travaillait avec le client chinois, et là, il n'y avait pas du tout de français ou d'allemand, donc c'était vraiment là où c'était intéressant, parce qu'on travaillait vraiment à fond avec eux, et c'est là où on parlait anglais, ils parlaient anglais, et il y avait toutes ces petites incompréhensions, ces petits, le fait que ben, le français a des mots un peu bizarres pour parler d'ingénierie, les Chinois ont leur même mot un peu bizarre, un peu difficile de traduire ça en anglais, et du coup, c'était vachement intéressant, et il y avait même si c'était des clients, et même si nous on était, bon, le prestataire, ça se passait très bien et il y avait vraiment une super bonne entente et on cherchait vraiment à ce que tout fonctionne et ça je l'avais pas vécu, j'avais pas vécu vraiment en France où on se tire un peu dans les pattes entre bon, le client, le prestataire, les fiches de bon conformité, etc. En Chine, je l'ai vraiment moins vécu. On faisait en sorte d'arranger les choses en direct et ouais non c'était une super expérience avec eux.
Et justement, on en a touché à peine deux mots avec un épisode, je pense, à Amandine qui nous parlait de son expatriation il y a quelques mois entre la Chine, l'Australie et le Canada. La culture du travail en Chine, t'en as pensé quoi?
Bah écoute, ouais, c'est différent de la France. C'est un
Oui,
peu à
c'est bien.
part. Mais moi, ça m'a pas dérangé du tout. Après, le fait de
Ouais.
travailler en fait dans cette culture assez mixte, français, allemand et à la fois chinois, j'ai l'impression qu'on en tirait les meilleurs bénéfices de chaque culture.
Ouais,
Mais moi, j'ai
c'est
adoré travailler
génial.
avec mes clients chinois parce qu'ils étaient à fond dans leur projet, quoi. Ils étaient à fond, à fond, à fond, à fond. Et après, le soir, bah, ils savaient décompresser et faire la fête.
Ouais.
Mais le lendemain matin, c'était boulot, boulot, boulot. Et non, c'était intéressant.
Écoute, très bien. Et alors, donc, du coup, tu restes finalement donc 2 ans après que ton entreprise, ça t'a stressé, du coup, de savoir que de mois en mois que tu étais renouvelé ou, enfin, comment est-ce qu'on fait, en fait, pour se projeter dans sa vie locale, du coup, sans savoir vraiment combien de temps on va être là, ou finalement, est-ce que tu t'en foutais et tu prenais juste l'expérience comme elle venait et tant que ça durait, c'était tant mieux.
Ouais, c'était exactement ça, hein. Je prenais l'expérience comme elle venait et j'en profitais à 100%. Après, c'est juste que dans le détail, c'est juste l'intendance qui est un peu compliquée, tu vois. Enfin, au début, je vivais dans un hôtel, après, ça a été un appartement, mais tu sais jamais, tu vois, il faut faire ses valises, pas faire ses valises. Et je voulais pas ramener trop de choses de France, mais d'un côté, il me fallait aussi mon minimum, tu vois, vital. Donc, c'était ce petit côté-là qui était un peu embêtant, mais encore une fois, ça me dérangeait pas du tout, quoi. C'était des petits.
Ouais.
Bon, c'était pardon, des détails.
Super. Et donc, au bout de 2 ans, finalement, on arrête de te renouveler ou est-ce qu'on te, on te prévient un petit peu que la fin approche? J'imagine le projet se conclut ou comment ça se passe?
Oui, le projet se conclut et je pense que j'aurais pu rester un peu plus longtemps, mais en fait, non, j'ai quand même décidé de rentrer en France après 1 an et demi, 2 ans, parce que le fait d'être renouvelé en fait mois par mois, c'était bon, c'était un peu embêtant, mais c'est surtout que j'avais, bon, après mon autre idée de partir aux États-Unis qui germait de plus en plus et il fallait que ça se fasse, donc j'ai préféré rentrer en France et plancher sur un autre projet.
D'accord, ok. Donc, du coup, te voilà de retour en France. Tu t'es prévu un atterrissage en douceur en reprenant ton job initial dans ta boîte ou est-ce que t'es rentré, t'as fait une pause et t'as travaillé sur la prochaine étape? Ou autre chose d'ailleurs, peut-être que je connais juste pas le scénario.
Donc moi j'ai atterri le lundi matin à Marseille et mardi matin j'étais au bureau et je commençais à retravailler sur des nouveaux projets du bureau.
Dans
Non,
ton
non,
ancienne
j'ai.
boîte, quoi. Enfin, t'as...
Oui,
D'accord.
tout à fait, la même boîte que j'ai gardée. Non, ça. Aucune pause et non, je veux directement continuer.
Ok, super. Et alors, un détail peut-être pour toi, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais c'est une question que notre communauté nous pose souvent. Le retour en France d'un point de vue administratif, ça s'est bien passé?
J'ai eu aucun souci particulier. C'est surtout du fait que j'ai jamais apporté énormément d'affaires. J'ai jamais eu besoin de passer des douanes, de passer. Enfin, j'ai des collègues qui ont eu pas mal de complications avec les taxes, les impôts, les douanes. Moi, le fait que je sois parti du mois au mois, j'avais quasiment rien à ramener. Et puis tout ce qui est impôts, ça s'est très bien passé. Mon entreprise s'occupait de tout. Donc franchement, non, j'ai eu aucun souci particulier.
Bon, bah écoute, génial. T'as vraiment le best of both worlds, comme on dit.
Ouais, je pense que j'ai de la chance là-dessus.
Ouais, c'est clair. C'est clair, parce qu'il y a, enfin, je veux dire, il y a des forums entiers alimentés absolument tous les jours sur le sujet. Donc, tant mieux pour toi.
Ouais.
Donc, du coup, te revoilà à Marseille. Si mes calculs sont bons, du coup, on est en 2017, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
Ok, et donc toi, tu rentres en te disant, mon objectif, c'est de repartir aux États-Unis. Tu avais un projet particulier en rapport avec les États-Unis ou enfin, d'où te venait
Ouais.
cette envie?
Alors, du coup, il faut repartir en arrière. C'était en 2012. Donc, j'avais pas fini encore mes études d'ingénieur. J'étais parti aux États-Unis dans le cadre de vacances et puis aussi fin d'études. Enfin, parler anglais. Je me suis rendu compte qu'il fallait quand même parler un peu anglais en tant qu'ingénieur. Donc, j'étais parti aux États-Unis. J'ai pas mal navigué en Californie parce que j'ai un peu de famille de base enfin, à côté de San José, à côté de San Francisco, tout ça. Donc, je suis parti là-bas avec eux et puis, j'en ai profité pour visiter les parcs nationaux. Puis j'ai aussi fait un camping pendant un week-end, un camping dans une montagne, sans réseau internet, sans lumière. Enfin, le soir, il neigeait alors qu'on était en juillet.
Un vrai camping à l'américaine, bien dépaysant, quoi.
Tout à fait, ouais. Dormir dans une tente, j'avais jamais fait déjà de base en France, donc c'était une super expérience.
Ah, c'est vrai? Ah
Non.
oui, d'accord.
C'est pas du tout camping de base et du coup j'ai tout voulu tenter l'expérience et j'ai vraiment adoré. Bon après je me suis vraiment gelé parce que moi quand on me dit de partir en Californie l'été, je ramène pas de pantalon, je ramène pas de veste, enfin t-shirt quoi. Bon bref. Donc j'arrive en 2012 dans ce camping et puis moi bon, j'ai rencontré Heather, donc enfin si je le dis en anglais ça va être Heather, qui est devenue bien plus tard ma femme, mais en
Ouais.
2012, je l'ai rencontré là-bas.
Alors comment tu l'as rencontré? Il faut que tu nous donnes quelques détails.
Bah écoute, ouais, au bord d'un feu, le soir au camping, et puis à force, on a joué aux cartes, on a joué avec sa famille, ses amis, et on a gardé contact après ça. Moi, je suis rentré en France, bien sûr, je continue mes études, et puis cette relation, en fait, a.
Être resté en contact?
Ouais, voilà, c'est
Ouais.
ça, on est assez en contact. Tellement en contact qu'on se parlait tous les jours, en fait. Hein. À partir du moment où on est parti, où je suis parti de Californie, on se parlait tous les jours. Et puis,
Ah ouais.
Ouais, et c'était un peu bizarre et surréaliste en fait. Moi j'avais à l'époque, si je fais le calcul, genre 21 ans ou 22 ans. Et donc je rentre en France pour finir mes études et on continue à discuter ensemble. Et puis après on se dit, tiens, pourquoi tu viendrais pas en France, tu vois? Alors qu'on se connaît à peine. Hein.
Sachant que tu l'avais vu en tout et pour tout, pour combien de temps du coup?
Quelques jours, 3-4 jours.
D'accord, excellent.
c'était. Voilà, du coup, elle vient l'année d'après, donc l'été en France. Et du coup, là, ça se passe super, quoi. Ça se passe, c'est génial. On officialise un peu, je pense, notre relation. Donc ça, c'est en 2013. Donc là, il faut que je finisse mes
Mais c'est dingue.
études. Et ouais, non, c'est un peu comme dans les films. Je me dis que oui, je crois qu'on a de la chance.
C'est complètement comme dans les...
Donc en 2013, elle vient. Là, moi, j'ai l'opportunité de partir aux États-Unis juste pour finaliser mes études. Donc ma cinquième année d'école d'ingénieur, je peux la faire en Iowa, dans le
Mais
nord.
immense.
Ouais, donc vraiment perdu hein, dans les États-Unis, mais c'était une super expérience. Et donc pendant un an, on a l'occasion donc là de faire un peu plus connaissance, on va dire, faire pas mal de villes ensemble. Donc là, on découvre déjà un peu l'amour pour le voyage, donc visiter des villes, des États. Ouais, ça s'est super bien passé.
C'est complètement dingue parce que du coup, en fait, juste si je reprends, vous aviez passé en tout et pour tout, donc quoi, quelques jours ensemble en
C'est ça.
Californie. Elle est venue combien de temps en France?
Je crois que c'est. Oh, je ne me souviens plus, mais ça va être 3 ou 4 semaines. Ouais. 3 semaines, je pense.
Donc, enfin, je veux dire, à tout casser, vous aviez passé un mois
Voilà,
ensemble
c'est ça.
et quoi, 2 ans à distance ou 1 an et demi à
Un an à
distance?
distance, ouais.
Un an à distance, pardon, d'accord. Et là, vous vous retrouvez, donc vous vous retrouvez quoi, tous les week-ends, tous les mois, dans une ville différente aux US,
C'est ça, ouais.
une fois que tu y es?
C'est ça.
Génial.
On a dû faire Chicago, Denver, Sacramento, Salt Lake City. On a fait quelques villes comme ça, un peu partout.
Elle a été basée où?
Et elle est basée à Stockton, là où j'habite là maintenant, aujourd'hui.
D'accord, ok.
Donc à côté
Spoiler
de
alerte,
entre ouais voilà entre
ok.
Sacramento et San Francisco.
Alors, comment se passe cette année ou c'est 6 mois ou comment ça se passe l'Iowa?
C'était une année, ouais, enfin une année, c'était deux semestres, donc c'était un peu moins d'un an, ouais.
8 mois?
Donc ça se passe bien, ça se passe tellement bien que ben quand j'entre en France, donc je suis diplômé ingénieur, je trouve un bon job très très rapidement et en fait tout s'enchaîne, c'est-à-dire que je rentre, je suis diplômé, je trouve un job et là je me dis bah non, j'aimerais bien retourner aux États-Unis quand même. Là je me rends compte que trouver un boulot d'ingénieur aux États-Unis, sachant que j'ai aucune expérience et puis que je travaille pas dans le milieu de la technologie, waouh, ça, je me suis rendu compte que c'était pas évident. Et donc c'est là où on a passé quand même quelques années à dire, tiens, bon, je vais tester peut-être des CV à des entreprises qui cherchaient des ingénieurs dans le génie civil. J'ai essayé de participer à des VIE. Puis je me suis rendu compte que c'était pas évident et que c'était presque impossible avec ma peu d'expérience arriver à trouver un job là-bas. Et puis c'est à peu près à ce moment-là où mon entreprise m'envoie en Chine. Donc il s'est passé quand même quelques années.
Vous vous êtes pas posé la question à ce moment-là, et pourquoi est-ce qu'elle ne viendrait pas en France, ou est-ce que pour vous c'était absolument les États-Unis?
Moi, parlant l'anglais, ouais, pensant parler l'anglais et ayant un diplôme, je me suis
On
dit,
pense tous parler
j'aurais.
anglais.
Ouais, c'est ça. Je me suis dit, tiens, je pense que j'aurais un peu plus de chance d'arriver à rester aux États-Unis. Et Heather, donc ma
D'accord.
femme, ma copine à l'époque, qui ne parlait pas forcément bien, bien français, qui a un métier qui est photographe, qui fonctionne extrêmement bien ici, qui fonctionnerait peut-être un peu plus difficilement en France. Je me voyais plutôt partir aux États-Unis plutôt que elle partir en France. On en a discuté, mais c'était assez clair que c'était plutôt
D'accord.
à moi de venir ici. Ouais. Donc voilà,
Très bien.
entre-temps, elle venait bien sûr plusieurs fois par an en France. Moi, j'allais plusieurs fois par an aux États-Unis. Dans mon bureau, tout le monde me demandait, mais quand est-ce que tu vas partir là-bas? On passait plus
Ben
de
oui,
temps
j'imagine.
à l'étranger parfois. Ça s'est passé comme ça. Et puis après, la Chine est arrivée vite. Et c'est à partir de la Chine que je me suis dit, voilà, il faut prendre, enfin, on s'est dit tous les deux, il faut prendre une décision en fait. La décision, est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on arrête, parce que ça peut pas continuer des années comme ça
ouais.
à distance, quoi.
Bien sûr, bah ouais, parce que là, du coup, en revenant de Chine, donc c'est 2017, donc tu l'as rencontré en 2012, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Ouais, ça fait un moment.
Ouais, donc vous avez fait 5 ans sur des continents différents et parfois à deux continents de
Ouais,
distance.
avec des décalages horaires de folie.
J'imagine, j'imagine. D'accord. Voilà. Et votre entourage vous a soutenu ou vous a pas pris un peu pour des fous?
Ouais, oui et non. Ouais, je pense que ça a un peu étonné un peu tout le monde, mais maintenant
Bien
ça
sûr.
étonne plus personne. Mais sur le coup, je pense ouais, ça a étonné pas mal de personnes. Ils se sont dit, mais pourquoi pas, tu peux trouver peut-être plus proche. Mais ouais, non, après, ça se commande pas.
Ben, t'as tout à fait raison. Donc là, maintenant qu'on a tout l'historique et le contexte, on revient donc à ton retour de Chine. Tu es de retour dans ta boîte et donc là, tu cherches à comment est-ce que tu vas faire pour aller rejoindre Heather. Et là, t'as déjà une petite idée de comment ça va se passer? T'as un
Ah bah
projet ou
oui,
comment?
totalement. En fait, on avait commencé à filer la chose pendant la Chine. Donc là, l'avantage de la Chine, c'est que partant en tant qu'expat célibataire, comme ils disent ça, ils me proposaient un billet d'avion aller-retour en France tous les 2 mois ou tous les mois, bon, pour visiter la famille. Et moi, j'avais pu négocier le fait de partir aux États-Unis, enfin d'avoir ce billet d'avion-là
Ah,
pour les
génial.
États-Unis. Donc je rentrais extrêmement souvent aux États-Unis. Et
Très
ça,
bien.
c'était vraiment pas mal. Côté la Chine, c'est que en étant plus loin des États-Unis, j'étais finalement plus proche. C'était en été 2017, je me suis fiancé en fait avec Heather.
Bon, alors, faut que tu nous racontes, hein. Faut que tu nous racontes comment vous avez passé.
Comment ça s'est passé? Alors moi, j'ai
Ah, bien
toujours
sûr.
été amoureux en fait de San Francisco, mais vraiment, j'adore cette ville. C'est une des villes pour moi
Ouais.
qui m'a plus marqué aux États-Unis. On a passé un week-end entier à San Francisco. Et puis, je lui ai proposé de se marier avec moi sous le Bay Bridge le soir. Donc, c'est pas le Golden Gate, hein. C'est le Bay
Wow.
Bridge le soir. Il est éclairé, il est super joli. Et donc, ça s'est fait sous ce pont-là. J'imagine peut-être comme dans les films aussi à San
Un peu,
Francisco.
hein.
Voilà.
Génial. Ok. Donc du coup, on imagine qu'elle dit oui.
Elle me dit oui, mais elle me dit, alors attends, parce qu'elle m'a dit quelque chose. Elle dit, mais t'aurais dû faire ça avant, ou je sais plus quoi. Elle me dit oui, mais elle me fait comprendre que ça a un peu duré quand même.
D'accord, donc tu te fais un peu reprendre, un peu remonter les bretelles, comme on dit.
Gentiment, remonter les bottes.
Donc, mais ça, c'était pendant que tu étais en Chine que tu lui as fait ta demande, du coup.
Ouais, c'est ça, ouais. Donc la suite, on rentre en France, enfin, je rentre en France. Maintenant qu'on est fiancé officiellement, on a lancé tous les papiers. Donc là, ça a pris mais un temps fou et beaucoup d'énergie, de temps et d'argent pour lancer une demande de visa fiancé. Donc pour ceux qui connaissent ça, c'est le K1 qui nous permet en fait de partir aux États-Unis pour se marier. Donc pour ce faire, c'est du côté des heures que ça se passe. Elle doit faire une pétition pour prouver que nous sommes fiancés et que nous sommes un couple réel.
Ouais.
Ça me fait souvent penser à l'auberge espagnole 3, où, je sais pas si tu l'as vu, où le
Non.
héros galère pour avoir sa green card et
Ah si, si,
voilà,
si.
ben, c'est à
Oui.
peu près ça.
On est dans Chinatown à New York.
Voilà.
Oui,
Alors moi, j'étais un peu paranoïaque à cette idée. Je me dis, il faut mettre toutes les photos pour être sûr qu'il nous croit, parce qu'il y a une police secrète comme dans l'auberge espagnole 3 qui va vérifier. Et finalement, il n'y a rien de tout ça. Ça s'est très bien passé. On a mis toutes nos photos, les témoignages des parents, des amis, etc. On a envoyé ça, Heather a envoyé ça au service d'immigration aux États-Unis. Ça a mis un peu de temps, ça a arrivé à l'ambassade de France, pardon, l'ambassade des US à Paris. À partir de là, un autre parcours du combat arrive. Donc là, il a fallu faire un tas de papiers. Il a fallu aussi faire pas mal d'examens médicaux. Alors ça, c'était le parcours du combattant. Alors il fallait aller le jour même faire une prise de sang à Paris, après dans un autre arrondissement à l'opposé de Paris, il fallait récupérer les radios du poumon, après il fallait... Ça a
Ouais,
été...
c'est les mêmes papiers que pour la green card en fait,
Bah, alors je sais...
sauf qu'il faut les faire en France.
Ouais, c'est ça, parce que moi du coup, j'ai pas fait ça aux États-Unis, et j'ai dû faire ça en France. Alors le problème, c'est qu'aux États-Unis, je pense que tu peux faire ça à peu près partout. En France, il y a bien sûr un seul médecin
Là, t'as les
qui
médecins
doit
agréés.
s'occuper,
Ouais.
il faut trouver... Ouais, bon, ça a été compliqué, mais ça s'est fait. Et bon, en fait, il y a énormément d'étapes, mais ça se passe plutôt bien. Il suffit de prendre son temps, faire les papiers très 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 convenablement, faire gaffe à ce qu'on écrit, pas faire d'erreur. Et on a eu la chance, tout s'est bien passé de ce côté-là, quoi. Donc je reçois un visa.
Ça prend combien de temps à peu près pour avoir une idée?
Ça a vraiment changé depuis. L'immigration a vraiment augmenté. Mais alors nous, de notre côté, on a eu, je pense, 3-4 mois pour la pétition, pour qu'elle arrive à l'ambassade des États-Unis. Après, on a eu 3 mois, on va dire, pour avoir une demande de rendez-vous à l'ambassade, et je crois un mois de plus derrière pour avoir un visa. Mais je crois que ça a bien augmenté depuis. Donc, je crois que c'est pour Noël 2017 que je reçois mon visa pour partir aux États-Unis. Et c'est là,
Joli cadeau.
ouais, c'était un beau cadeau, parce qu'en plus, les heures étaient là, donc on s'est fait ce cadeau-là tous les deux. Et c'est là que ça a été, en fait,
Génial.
presque un peu compliqué, hein, bah, d'annoncer, en fait, à tout le monde, c'est-à-dire ma famille, mes amis et surtout mon entreprise, que j'allais quitter. Parce que bon, ma famille s'en doutait, mes amis aussi, mon entreprise pas du tout, et ils me confiaient de plus en
Ils n'avaient pas vu le truc venir quand même.
oui, mes collègues, oui, alors, mais après, les boss, peut-être pas.
Ouais, bien sûr. C'est pas ton
Et
histoire, quoi.
ouais, du coup, comme il m'avait fait confiance, il m'en donne de plus en plus de responsabilités, et ah, je me sentais, mais ça, c'est peut-être mon esprit un peu français de me sentir un peu mal vis-à-vis d'eux, et voilà, je leur ai annoncé à ce moment-là que je partais. Ouais, c'était un moment un peu dur, hein, pour moi, en fait, parce que c'est là où je pense que j'ai réalisé que je quittais vraiment la France, quoi. À la fois mon entreprise, ma famille, puis je partais pas du tout dans le même état d'esprit que je suis parti en Chine. En Chine, je partais pour un mois. Ouais, ça dure un peu plus longtemps, mais là, je pars. Quand j'ai annoncé ça à
Là,
tout
tu
le
sais
monde,
pas
là,
pour
je me
combien
dis,
de
bon,
temps.
voilà, là, c'est définitif. Je rentrerai peut-être en France, mais pas dans les 10 prochaines années, quoi. Bon, en tout cas, j'espère pas. Donc, ouais, voilà. Donc, ça a été une partie un peu délicate. Et puis, après, ça s'est très vite enchaîné, parce que quand tu as un visa à un fiancé, tu dois partir dans les 6 mois. Et quand tu arrives aux États-Unis, tu as 90 jours pour te marier. Donc, t'es un peu obligé de te dépêcher, en fait. Donc, je suis parti le 18 mai 2018 aux États-Unis, et je me suis marié le 29 juin 2018. Ouais, c'est ça.
Et vous aviez prévu du coup de faire un mariage un petit peu rapide ou du coup vous avez eu le temps de prévoir tout ça? Comment ça s'est passé?
Ouais, mais alors ça, c'est une bonne question. Alors, le fait de pas connaître exactement la date à laquelle j'aurai eu le visa, ça nous a vraiment mis des bâtons dans les roues, parce que du coup, on pouvait pas vraiment
Ouais,
prévoir quelque
j'imagine.
chose de particulier. On pouvait pas prévoir une salle. Enfin, tout s'est fait un peu dans la précipitation. Le moment où j'ai eu le visa, que j'ai su quand je partais aux États-Unis, et là, on a pu prévoir une date, et on a pu aussi prévoir une salle, prévoir un traiteur, etc. Alors, on a voulu faire quelque chose petit, puis finalement, on s'est retrouvé avec 100 personnes
Ah oui, quand
Non, ça n'a pas fonctionné. C'est un peu dur, en fait.
Bah oui. La famille a pu venir de France un peu
Oui,
ou...
alors là, c'est là que j'ai vraiment eu énormément de chance, et j'apprécie vraiment mes amis pour ça. C'est-à-dire qu'ils ont fait, la plupart ont fait le voyage, quoi. J'avais au moins une vingtaine ou une trentaine de personnes de France qui sont venues juste
Oh, génial.
pour une journée, quoi. Donc, ouais, non, franchement, je suis vraiment reconnaissant.
Énorme. Donc du coup, vous vous mariez, ça fait quoi, un mois et demi du coup que tu es aux US à ce moment-là, donc contrat rempli vis-à-vis de l'immigration.
Oui, exactement, ouais. D'ailleurs, pour la petite histoire, on s'est mariés à San Francisco, dans la mairie de San Francisco, vu qu'on aime cette ville tous les deux.
C'est rigolo, c'est notre deuxième invité qui s'est marié dans la mairie de San Francisco, et je crois que c'était aussi en 2018 d'ailleurs pour Laura.
Ah ben, c'est peut-être croisé, parce que c'est un peu une usine, le mariage là-bas. On se marie, une heure après, il faut libérer la salle, il y a notre mariage. Ouais, c'est pas du tout la même chose,
Un
quoi.
peu à la chaîne.
Donc, tu me parlais de l'immigration, ouais. Donc, à partir de là, j'ai rempli mon contrat. Donc, maintenant, il a fallu que je me lance dans la green card, donc changement de statut, etc. Pareil, hein, on a tout fait nous-mêmes. Moi, j'ai pas utilisé d'avocat. J'ai entendu que des personnes utilisaient des avocats, ce qui à mon avis est une bonne idée aussi. Mais nous, on n'avait pas forcément envie de dépenser trop d'argent là-dedans. Donc, on a suivi les papiers, les forums. Je vais aller sur Internet, etc. Puis ça s'est plutôt bien passé, mais ça a pris un temps fou. Et c'est là que ça a pris un temps fou et ça a été un peu dur pour moi parce que le fait d'être arrivé avec un visa fiancé, moi j'avais pas le droit de travailler. Je pouvais pas travailler tant que j'avais pas une green card. Alors j'ai demandé une carte qui me permettait de travailler un peu avant d'avoir la green card, ce qui s'appelle l'EAD. Mais cette carte-là, en fait, je l'ai eue 6 mois après le mariage. Donc pendant 6 mois, j'étais assigné à résidence et je pouvais pas travailler. Donc ça, c'était un peu dur pour moi, le fait de
passer,
en fait. Et puis de dépendre un peu de ma femme, ça faisait vraiment bizarre. C'était pas du tout mon truc.
Ouais, ça faisait pas partie de ton projet,
non,
quoi.
Pas du
coup, faut faire avec.
Non, non. Donc,
du coup, t'as fait quoi, dans là?
Je me suis préparé à faire un Ironman. Donc, je faisais du vélo tous les jours, je courais tous les jours.
Ah, t'étais productif, quand même.
Ouais, autant faire quelque chose de ces journées plutôt que de les passer sur le canapé, quoi.
Bien sûr.
Donc, ouais, non, je fais pas mal de sport pour ce moment-là. Et puis, j'ai appris aussi un peu à connaître les États-Unis, sa famille, ses amis, la ville. Et puis aussi, c'est là où j'ai pu changer un peu d'orientation professionnelle. J'ai pu passer, en fait, mes licences de pilote professionnel aux États-Unis. Comme je disais au début de l'émission, j'avais déjà tout ce qui était brevet de pilote privé en France, où je volais pour le plaisir avec mes amis. On partait le week-end en Corse, de Marseille, on faisait ce genre de trucs.
Génial.
Tous ensemble, ouais, c'était pas mal. Mais c'était vraiment pour le plaisir privé, quoi. Et puis, pendant ces 6 mois, là, où j'avais pas grand chose à faire, je me suis dit, j'ai mis un peu d'argent de côté avec la Chine, parce que mon entreprise avait été assez généreuse, et j'avais mis ça de côté, je me suis dit, pourquoi pas, si j'ai un projet professionnel dans l'aviation. Et puis, je suis allé dans une école de pilotage à Sacramento, et j'ai tout passé, donc j'ai passé tout ce qui était pilote professionnel, etc. Et je pouvais toujours pas...
Ça représente un nombre d'heures de vol hallucinant.
Ouais, alors oui et non, il faut à peu près 250 heures de vol, et je les avais déjà, donc après, ce que j'ai dû passer aux US, c'était plutôt des conversions licence, quelques heures de vol, des équivalences. Donc ça s'est plutôt bien passé, financièrement ça s'est plutôt bien passé.
Ouais.
J'ai dû faire quand même pas mal d'heures de vol, je crois que j'ai dû faire 50 heures en plus, mais ouais. Mais je pouvais toujours pas bosser parce que sans green card, sans EAD, même avec ces diplômes-là, je pouvais pas passer. Donc j'ai encore dû attendre un petit peu. Ouais.
D'accord, et du coup, alors c'est arrivé au bout de combien de temps alors?
Donc, marié en fin juin 2018 et j'ai eu une green card fin mars 2019. Donc,
presque un an quoi.
Ouais, un an et j'ai eu donc l'EAD qui me permettrait déjà de travailler. Je crois que c'était le 1er janvier 2019, donc c'est un peu plus que 6 mois. Ouais.
Il y a pile un an aujourd'hui quand on se parle.
Ouais, exactement, ouais. C'est vrai, ça fait un an que je travaille ici.
Félicitations.
Merci.
Alors du coup, qu'est-ce que tu décides de faire donc avec tes nouveaux diplômes, ton autorisation de travailler et étant au top de ta forme puisque tu as fait énormément de sport pendant toute ta préparation? C'est quoi
les dernières préparations? C'est la bonne question parce qu'à l'époque, je ne savais même pas. Est-ce que j'allais retrouver un job d'ingénieur ou est-ce que j'allais me remettre dans l'aviation?
Défini, quoi. T'avais fait ça pour le fun, un peu.
C'était le fun, ouais. Et puis, c'était franchement le fun et me dire, ouais, si j'ai de la chance, peut-être que j'arriverai à trouver un job dans l'aviation.
Ouais.
Et je me suis dit, je vais postuler à tout ce que je peux et on verra ce qui arrive le premier, quoi. Donc, afin d'être pilote de ligne aux États-Unis, c'est un peu différent de l'Europe. Il faut avoir 1500 heures de vol. Enfin, il faut pas mal d'heures de vol. Donc, en général, pour faire ces heures de vol-là, on devient instructeur et puis on vole avec des élèves, on leur apprend à piloter. Donc, le lundi, je reçois ma green card. Le lundi soir, j'appelle une école en Californie de pilotage. Je leur dis, tiens, est-ce que ça vous intéresse d'avoir un instructeur? Est-ce que je vais en chercher? Ils me disent, oui. Le mardi, je passe l'entretien d'embauche. Le mercredi, je suis embauché. Le mercredi, je vole.
Ça a été
extrêmement rapide. Ouais, c'est là où je vois vraiment la différence avec l'Europe et les États-Unis, c'est cette facilité d'embaucher.
Tu découvres la vie, le monde de l'emploi aux États-Unis, c'est complètement nouveau et finalement tu te fais embaucher donc en 2 jours et te voilà commencer un nouveau job, une nouvelle vie finalement assez rapidement.
Exactement, ouais. Ça s'est fait d'une façon, je pensais même pas que c'était possible en fait. Hein. J'ai même pas signé de contrat. C'était le lendemain, j'étais dans un avion, quoi. C'était dingue et surtout d'être payé à faire l'avion. Moi, je pensais même pas que c'était possible. Je l'avais jamais imaginé en France.
Payé à vivre de ta passion, quoi.
Ouais, exactement, ouais. C'est-à-dire que le matin, je me réveillais à peut-être 5 heures du matin, parfois pour voler de 7 heures du matin à 5 heures de l'après-midi, non-stop, sans arrêt. Et moi, ça m'allait très bien, quoi.
Pour le plaisir, quoi. Ouais, génial.
Pour le plaisir.
Génial, génial. Ok. Donc, du coup, tu fais ça pendant combien de temps alors?
En fait, là, je le fais toujours, c'est-à-dire que là, je suis en train de finir. J'ai commencé, c'était en janvier donc de l'année dernière. Là, je suis en train de finir, c'est-à-dire que dans quelques mois, je pars chez SkyWest. J'ai quasiment fini ces 1500 heures de vol. Et,
okay.
Et là, j'ai été embauché.
Alors, et donc, tu as été pré-embauché avant la fin de tes heures, en fait?
Oui, alors en fait, il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a un shortage of pilots. Donc, ils sont vraiment en manque de pilotes, mais de fous, en fait. Ils cherchent vraiment, vraiment à avoir des pilotes. Et donc maintenant, on se fait embaucher avant même de finir en fait nos heures. Il faut avoir bien sûr toutes les licences, tout doit être nickel. Mm-hmm. Mais ils attendent juste qu'on ait fini nos heures de vol et on a déjà un papier qui dit qu'on est embauché.
Putain, c'est donc, génial. Ça, c'est... Bah écoute, félicitations. Ouais. Et du coup, c'est pour quand c'est pour quand du coup le début qu'on pourra voyager aux États-Unis avec Anthony comme pilote?
Avec un Français aux commandes, ça sera en juin 2020, donc juin de cette année.
Ah ouais, donc c'est juste une histoire de quelques mois, là.
Ouais, il faut finir ce que je suis en train de faire et puis commencer aussi un peu le training avec SkyWest. Chaque compagnie a sa propre façon de voler, de travailler, quoi. Donc j'ai vraiment excité à cette idée-là. En fait, j'avais toujours pensé à être pilote de ligne quand j'étais tout petit en France. Ouais. Mais l'occasion, c'était pas forcément présenté. Il n'y avait pas forcément de job à l'époque en France. Donc, j'étais parti sur le chemin de l'ingénierie qui était le choix le plus... Le fait d'être ingénieur en France, c'était le plus sage. J'étais sûr d'avoir un travail derrière. Ouais. Ça ne me coûtait rien en France. Donc, j'ai fait ça. Mmh. Et puis, bon, voilà, les opportunités ont fait que j'ai pu changer et être pilote là.
Et alors, donc, du coup, là, on est donc à peu près un an, du coup, depuis que tu fais ça là-bas. Quelles leçons t'en tires, justement, de la vie professionnelle américaine? Puisque tu y es toujours, ça doit te plaire un minimum. Raconte un petit peu.
Ouais, c'est excellent. Hein. C'est-à-dire que on a une flexibilité de fou, en fait, j'ai l'impression, aux États-Unis. Par contre, on est loin, en fait, de tous les avantages qu'on peut avoir en France. Hein, quand on parle, de vacances, de sécurité sociale, de retraite, on est loin de tout ça. Donc, on a des super côtés. Hein, le fait d'être embauché très rapidement, gagner quand même de l'argent plutôt correctement. Mais après, derrière, ouais, il faut savoir qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas. Donc ça, c'est le fait d'être habitué en France, d'avoir quand même pas mal de chance. Quand on vient ici, ouais, on se rend compte on a abandonné tout ça. Hein. Ouais, on garde un coin de la tête quand même.
Il y a un truc en particulier auquel tu penses qui te manque?
Moi, je suis un peu précautionneux. Alors, je pense toujours à la sécurité sociale ou les mutuelles qu'on peut avoir en France. Hein. Le fait d'être couvert à 100% pour tout, je veux dire, en France, on a vraiment pas de soucis à se faire. Tout va bien se passer médicalement. On sera couvert.
Pas vraiment de peur du lendemain là-dessus, quoi.
Voilà. Aux États-Unis, il faut être bien couvert. Hein. Si on réfléchit pas à prendre sa propre sécurité sociale, propre assurance, il faut réfléchir à tout ça. Sinon, ça peut coûter très, très, très cher. Donc, bon, il faut le savoir, mais il faut travailler avec et faire attention, quoi.
Ouais, du coup, tu as un avantage aussi, c'est que étant marié à une Américaine, tu as pu être un peu briefé sur ces choses-là.
Oui,
t'as
oui.
Tu n'as pas
oui,
eu à tout découvrir de zéro tout seul.
Non, j'ai eu la chance, ouais. Tout ce qui est même impôts, taxes, je fais 100% confiance. Ouais. J'ai eu la chance.
Donc, du coup, tu as fait des allers-retours entre les US et notamment la Californie et la France ou la Californie et la Chine pendant presque 10 ans, hein. En tout cas 6-7 ans. Est-ce que c'est super différent une fois que tu y vis ou est-ce que finalement tu n'as pas été super surpris une fois que tu y as vécu de manière permanente?
Non, je pense que le petit choc culturel qu'on peut avoir, je l'avais déjà eu apparemment quand je voyageais, quand je suis déjà venu ici plusieurs semaines. Non, je n'ai pas été forcément surpris. Non, je m'y attendais.
Ouais, ok.
Surtout ouais, tout ce qui est côté nourriture.
Très bien. Et donc, 2019, ça a aussi été une année importante pour Heather et Anthony. Raconte un petit peu, qu'est-ce qui vous est arrivé?
Oui, c'était le 19 mars 2019. On a Gabriel qui est arrivé. Voilà, donc un petit garçon. Ouais, merci. Qui a changé en fait complètement notre vie. Hein.
Super. Et alors, la vie de papa et le fait justement de devenir parent aux États-Unis, tu parlais alors du système de santé. Est-ce que c'est un peu en rapport à ça que tu mentionnais ça ou pas du
tout? Oui, j'y pense aussi. C'est-à-dire qu'en France, tout va bien se passer pour l'enfant aussi. Aux États-Unis, tout va bien se passer aussi. Mais encore une fois, il y a quelques couches de sécurité à avoir il faut penser à tout ça, il faut être sûr à 100% d'avoir les bonnes assurances, à la fois pour ma femme que pour le bébé. Ouais, non, il faut juste faire attention. Mais enfin, globalement, j'ai pas vu de grande différence entre mes amis qui sont papa et maman en France et ici. Enfin, ça reste un bébé, tout se passe bien.
Eh ben, tant mieux. Heureusement, j'ai envie de dire.
Il n'est pas encore à l'école, donc on n'a pas encore à penser. Quoi.
Vous habitez là où ta femme habite aussi. Vous êtes pas perdu, et ça, c'est tant mieux. Enfin, vous avez un petit peu autour de vous.
On a sa famille, ses amis qui sont autour, qui nous donnent un grand coup de main quand il faut garder Gabriel. Non, franchement, on a beaucoup de chance.
Tant mieux. Bon, eh ben, écoute, c'est super. Écoute, Anthony, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi personnellement, mais aussi à toi et ta famille pour la suite?
Bonne question, plein de bonheur.
Écoute, c'est tout ce qu'on souhaite. Tu le sais sûrement, une des questions qu'on aime poser à la fin de chaque épisode à nos invités, c'est essayer en fait de découvrir leur région avec eux. On a un compte Mapster, je sais pas si tu es au courant, sur lequel Manon en fait utilise donc toutes les adresses que nos invités nous donnent pour mettre à jour la carte de French Expat le podcast. Et donc alors, si on venait donc de ton côté de la Californie, quels seraient les trois endroits que tu nous recommanderais vraiment de ne pas manquer.
Au niveau de la région, je pense que déjà San Francisco, ça c'est vraiment pour moi la ville rêvée. Et pour ceux qui aiment un peu plus la nature, franchement c'est Yosemite. Ça c'est Yosemite à 100%. J'adore cette région, j'adore les randonnées là-bas, j'adore la nature. Je suis autant amoureux de la nature de Yosemite que de la ville de San Francisco. Et puis ensuite, en tant que bon français, je vous dirais la région de Napa, hein, avec tous les vins, les vins pétillants, etc. Ouais. Là-bas.
Est-ce qu'il y a une winery en particulier que tu recommanderais?
Là, comme ça, tout de suite, je pense à, ça s'appelle Ron Bauer. Ils sont spécialisés dans le chardonnay. Voilà. Excellent.
Super. OK. Bon, eh ben, écoute, merci beaucoup, Anthony. Je te souhaite une très, très bonne continuation. Et puis on a hâte de te retrouver pour savoir un petit peu comment ça s'est passé tes débuts chez WestJet. C'est WestJet, hein, ça?
Non, SkyWest.
SkyWest, pardon, désolé. Tes débuts chez SkyWest, du coup. Écoute, excellente continuation et merci beaucoup de nous avoir raconté ton histoire.
Merci beaucoup.
Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous souhaitez retrouver les bonnes adresses de notre invité, rendez-vous sur Mapster. Cherchez notre compte French Expat, le podcast tout attaché, et vous retrouverez ainsi toutes les bonnes adresses de tous nos invités d'ailleurs, un peu partout dans le monde. Merci infiniment à vous d'avoir écouté ce tout nouvel épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser plein d'étoiles et un avis sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen de nous aider. Et d'ailleurs, un immense merci à Rue Rivard, qui nous écrit depuis le Canada, qui dit « L'expatriation du côté humain. Des témoignages inspirants qui vont bien au-delà du simple déménagement à l'étranger. À chaque épisode, c'est une nouvelle aventure passionnante et une nouvelle rencontre touchante qui nous sont proposées. Pardon. Écoute, merci beaucoup, Rue Rivard. Du coup, je ne sais pas si tu es un homme ou une femme. En tout cas, on s'en fout. Merci beaucoup. Ça nous touche beaucoup. Merci d'avoir pris le temps de laisser cet avis qui nous aide énormément, de nous mettre 5 étoiles. Et puis surtout, merci pour ta fidélité. Sachez que vous pouvez également nous soutenir en partageant cet épisode avec votre entourage, un futur expat qui se pose plein de questions ou encore un expat qui pourrait se retrouver dans notre communauté, par exemple. Pour plonger dans les coulisses du podcast, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook et LinkedIn @FrenchExpat, le podcast. Pour retrouver tous les liens vers tous les épisodes, les plateformes, les réseaux sociaux, c'est encore plus simple, direction notre site internet FrenchExpatPodcast.com. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt.
C'est encore moi. Avant de vous laisser, je voulais juste vous rappeler que nous avons enregistré un petit épisode de suite pour voir où en est Anthony 3 ans après. Cet épisode, vous pouvez le retrouver dans le flux du podcast French Expat. C'est un épisode qui est sorti au mois d'octobre 2022. Je vous mets le lien dans la description de celui-ci d'épisode.
Vous venez d'écouter un podcast réalisé par moi-même, Anne-Fleur Andrely, mixé et habillé par Alice Krief et produit par French Morning. French Expat n'est pas le seul podcast de French Morning. Pour retrouver tous les podcasts du groupe, rendez-vous sur frenchmorning.com/podcast. À bientôt.